vers 15h03. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X.
Une taupe peut-elle en cacher une autre? Une question qu'il faut bien se poser à propos de l'espion israélien Jonathan Pollard. Sinon, pourquoi les États-Unis refusent-ils de le libérer depuis 27 ans?
Rendez-vous avec X tous les samedis à 13h30 sur France Inter. Là-bas, si j'y suis sur Inter, c'est maintenant.
Daniel, bravo pour ton émission d'aujourd'hui. Et merci d'avoir diffusé la chanson du chiffon rouge qui m'émeut aux larmes en pensant à mon père. Voilà, c'était Marie du chiffon rouge.
Fuir, se faire la belle, oui. Et vous citez Henri Laborie, merveilleux. Il est trop méconnu de nos jours. Moi, je trouve dommage de l'associer uniquement au film d'Alain René et au neuroleptique, car Henri Laborie va bien plus loin. Je vous conseille à tous de lire à nouveau Laborie. Il est à redécouvrir. Il a su, je crois, retrouver une dimension spirituelle, pas religieuse, une dimension spirituelle dans la médecine et la biologie, et notre époque manque terriblement de spiritualité. Alors fuir, oui, fuir, c'est aussi prendre de la distance pour mieux regarder, pour voir. Toute la recherche de Laborie réside en ça. Il a toujours cherché, en tant que scientifique, à voir autrement, à être ailleurs, contre la bêtise, contre les consensus sociaux. Laborie reste toujours hautement subversif aujourd'hui.
Salut Daniel, c'est Laurence de Québec. Aujourd'hui, on est le 5 septembre, il est 9h10 le matin. L'heure est grave. On est passé aux urnes hier. Le peuple a décidé d'élire un gouvernement majoritairement péquiste, donc un gouvernement à la tête duquel est un parti indépendantiste. Tu as connu tous les remous de ce printemps, avec les conflits étudiants, la paix sociale qui a été troublée, les revendications des gens qui n'ont pas été écoutés. Les gens se sont prononcés, et lors du premier discours de notre première ministre, Pauline Marois, la première femme à la tête du gouvernement du Québec, un fou a tiré sur quelqu'un à l'Assemblée des péquistes. Quelqu'un a été tué au soir de l'élection québécoise. Quelqu'un a mis le feu derrière l'endroit où tout ça se déroulait et a crié, escorté par la police, « Les Anglais se réveillent! Les Anglais se réveillent! » Alors, Daniel, tu vois, ce qui se passe au Québec, ben, c'est loin d'être fini et ça semble être profondément enraciné. Alors, pensez à nous! Ciao!
Oui, bonjour, c'est encore Josette de Troyes. Concernant Sodi Médical, c'est pour corriger une erreur de ma part. J'ai parlé de 5 filles sans salaire depuis 9 mois. En fait, ce n'est pas 5, mais 50. Merci pour elle. Au revoir.
Merci, chers AMG. Merci pour ces messages. Nous voilà repartis déjà sur les chemins du monde. Rien d'original puisque 12 millions d'enfants sont repartis aussi sur les chemins du monde, à commencer par le chemin qui mène de la maison à l'école, le chemin de l'école. Comment fait-on le chemin de l'école? Des fois, c'est les parents qui vous conduisent, c'est le car scolaire, des moyens de transport collectif, etc. Mais c'est aussi souvent à pied. C'est souvent à pied qu'on fait le chemin d'école. Et c'est un chemin très particulier dont on se souvient toute sa vie. Toute sa vie. Pensez-y à l'instant. Vous vous souvenez de votre chemin de l'école. En tout cas, moi, je me suis souvenu un beau jour du chemin que je faisais pour aller à l'école. Et j'ai simplement eu envie de le refaire. C'est comme dans la chanson où on dit on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Eh ben, refaites votre chemin de l'école et vous allez voir, c'est pareil. Sauf que c'est pas des papillons, c'est pas des rainettes, c'est pas des sauterelles, mais c'est des souvenirs, c'est des moments, c'est des images, c'est des visages qui reviennent. Simplement en marchant. C'est ce que j'ai fait, c'est devenu un classique de là-bas si j'y suis, et c'est la balade que je vous propose aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour. Alors voilà, j'appelle parce que j'habite dans les Pyrénées-Orientales et là, il se passe un truc hallucinant. Groupama, vous devez connaître Groupama, c'est une mutuelle censée mutualiser pour payer pour les plus pauvres et tout ça. En fait, c'est un groupe qui privatise en ce moment la montagne pour permettre des chasses privées à quelques heureux riches. Alors, ils sont propriétaires de 1900 hectares dans le massif au-dessus de Mossette. Et alors, ils empêchent les randonneurs d'aller randonner, d'aller ramasser des champignons. Voilà, ils sont en train de privatiser la montagne. Alors, pour en savoir plus, vous pouvez aller sur le site du village de Mossette, M-O-2-S-E-T, où la résistance est bien présente avec la création d'un collectif. Il y a aussi une pétition. Pour la pétition, il suffit que vous tapiez « pétition pour la liberté » sur le MADRE. MADRE, c'est M-A-D-R-E-S. Et puis, il y a une marche qui est prévue le 29 septembre, parce qu'on va forcer le passage, parce que c'est pas normal quand même qu'on puisse plus bénéficier de cette montagne qui appartient à tout le monde. Voilà, il faut leur dire que l'argent ne donne pas tous les pouvoirs. Sinon, vous allez sur le site http www.mossette.fr à la une, /58, le collectif MADRE communique. C'est un peu compliqué tout ça. Mais il suffit que vous alliez sur Google et vous tapez pétition pour le MADRE. Et ouais, ce serait bien qu'il y ait beaucoup, beaucoup de gens pour la pétition, mais surtout pour la marche aussi. Et à suivre donc. Au revoir.
Oui, bonjour Daniel, c'est Richard. Donc je vous appelle parce que j'ai entendu le message de Chantal par rapport à l'hôpital de la Ménard, donc la réaction de TF1 sur l'hospitalisation de Johnny. Mais malheureusement, quand les vérités sont à dire, il faut les dire, madame. Donc l'hôpital de la Ménard n'est pas spécialement un super hôpital, parce que quand les gens y rentrent, ils y rentrent pour mourir très souvent. Donc quand vous attrapez beaucoup de maladies, et dans les étages, ben, les sols sont terribles à voir, donc c'est pas bien lavé. Donc les toilettes sont pas terribles, les toilettes publiques, les chambres ne sont pas terribles, et les soins ne sont pas vraiment terribles. Donc je suis vraiment désolé, madame Chantal. Je suis martiniquais comme vous, je ne suis pas là pour faire une guéguerre entre martiniquais, mais quand c'est une vérité, il faut la dire. Donc l'hôpital de la Ménard n'est pas terrible. Allez, bisous à tous et bon courage. Bye. Merci Daniel.
Bonjour Daniel, bonjour aux auditeurs. Chronique mortifère annoncée. Militant de l'association Défense Promotion Cévenol, nous avons le regret d'informer les usagers des gares de la Nièvre, de l'Allier, du Puy-de-Dôme, de la Haute-Loire, de la Lozère, du Gard et des Bouches-du-Rhône, que l'intercité le Cévenol joignant Clermont-Ferrand à Marseille est sous respirateur artificiel. Guillaume Pépi a décidé de lui inoculer la rage dans l'indifférence complice des ministres de tutelle et des médias nationaux. Il ne devrait en effet plus atteindre Marseille au mois de décembre, ce qui correspond à la dernière étape avant de le débrancher définitivement. Préparez le cercueil. Bonsoir.
Bonjour Daniel, le vendredi 7 septembre à Quévert, près de Dinan dans les Côtes d'Armor, l'association Les Mordus de la Pomme organise une conférence sur les OGM. Les OGM avec Christian Vélo, grand spécialiste de la question. Nous ne demandons pas d'entrée, mais chacun pourra participer aux frais du conférencier. Merci à tous, à bientôt.
Bonjour à tous. Le repère de Perpignan reprend ses activités ce jeudi 6 septembre à 18h30 au Café du Centre, qui se trouve à l'angle de l'avenue du lycée Arago et de l'avenue Jules Panchaud. À ce soir alors, venez nombreux avec plein d'idées et surtout ne lâchez rien.
Salut, c'est Daniel Mermet, la basse suffisante.
Flight number 2, arriving from New York.
C'est là que ma mère dort, derrière des volets fermés. Une chambre. C'est là que mon père est mort, et c'est là que je suis né. Dans cette chambre, mes frères, mes sœurs sont nés là, c'était comme ça. Derrière ces volets, un pavillon quelconque, d'une banlieue quelconque. L'amour, les rêves, la mort, la souffrance et la vie. Les choses de la vie. le décor quelconque d'un roman, familial sans plus d'importance que n'importe quel autre. Petite banlieue, petit pavillon de banlieue, les autres venaient de loin, de haut, et moi de là, de rien, économiquement faible. C'est là que je suis parti faire mon premier voyage. C'est le tout premier voyage que j'ai eu envie de refaire et que je vais refaire aujourd'hui. Un voyage que chacun a fait dans sa vie. Une première fois, un premier voyage, le chemin de l'école. Cette vie donc, derrière ses volets, et puis le pavillon, et puis le perron, et puis le jardin, et puis le cerisier, et puis le mur, et puis le grillage, et le lilas, et après, c'est la porte. La porte en fer de la rue, et puis dehors, et puis le trottoir, et puis les voisins, les autres, derrière le mur, derrière le grillage, les autres vies, et puis le coin de la rue, l'épicerie, un haut lieu, et puis c'est tout. Presque. Le monde s'arrête ici, au coin de la rue. Voilà l'univers. Voilà ce qu'il y a à imaginer. Un monde limité, heureux, comme le ventre d'une mère. Bien sûr, il y a de temps à autre des excursions, à l'église, au marché, au mariage à Jacqueline et Roger. Mais un jour, aventure. Un jour, en route pour l'école, la grande, l'arrachée. Un jour, le premier voyage qu'on fait seul dans la vie, le chemin de l'école. Le tout premier, c'est pas vraiment la liberté, mais c'est la laisse qui s'allonge, vertige. Soudain, le monde s'agrandit. Vaste, le monde, et pour ainsi dire, presque infini. J'ai eu envie de refaire ce que à peu près tout le monde peut refaire un jour dans sa vie, le chemin de l'école. C'était, il y a des années, je commence à mentir sur combien. C'était où ? Je dirais pas exactement. C'est un chemin commun, familier, on l'a tous fait. C'est pour éveiller en vous des rêveries, des nostalgies, je sais pas au juste quoi, des bonheurs peut-être. Jamais je n'ai refait ce chemin et je ne sais pas si mon école, au bout, existe toujours. Je sais vraiment pas. J'ai emmené Zoé, Varié, avec moi pour pas avoir l'air idiot d'un ancien enfant qui parle tout seul dans une rue de banlieue avec un micro. Alors on part, mais je vous préviens, je vous dirai pas tout. Je m'en garde pour moi. Il n'y a pas prescription pour tout dans la vie. Alors, tablier, goûter, plumier, castagne, et puis, c'est ça, je dirais pas vraiment tout. Tiens, je vois le chat. C'est le chat de mon père, là, qui est là. Regarde, regarde. Et donc voilà, alors la véranda, le petit perron en ciment, tout est petit parce que c'est des petites gens, c'est les gens de peu ici. Et puis il y a la porte, tout ça, ça a beaucoup d'importance parce qu'on passe. On passe de la maison à ce jardin qui est un lieu entre les deux, entre dedans et dehors, entre eux et nous. Là, on passe de la rue. Puis là, tout d'un coup, c'est la rue. Parce que longtemps, l'espace, tu vois, la vie se limite là, l'épicerie. Ça s'appelait VG, l'épicerie. Hein, c'est les coopérateurs, ça a été les coopérateurs, après ça a été VG. Puis après, c'est devenu Madame Ham. Bon, on est chez la mère Ham, Madame Ham. Bon, donc là, tu vois, ça fait 50 mètres. L'espace s'arrêtait ici, et puis là-bas, chez Dalen. Tu vois, le terrain qui était là, c'était le plombard qui s'appelait Dalen. Bon, il y a le gueulard, le marchand de légumes. Il y a les filles fourmis. Bon, c'est déjà plus loin. Là, Dalen, le plombard, qui faisait de la peinture. Il peignait des bouts de bois tout en noir. Il disait que c'était la nuit. Puis il peignait des machins tout en blanc. Il disait que c'était de la neige. Il était très drôle. C'est lui qui a installé le chauffe-eau. Chez nous, c'est des grands moments, le chauffe-eau. Parce qu'évidemment, quand j'étais môme, il n'y avait pas tout ça. Tout petit. Et puis là, il y a Rousseau. Ouh. Là, ce pavillon, le pavetard en meulière, la vraie meulière, quoi. Hein. Rousseau, lui, il avait un atelier que tu vois là-bas derrière, et il faisait des rails de chemin de fer là-dedans, et il y avait le téléphone. On entendait le téléphone sonner. Voilà, pour Rousseau, il était en bleu, avec sa gapette, il avait une grosse femme, des lunettes. Là, il n'y avait rien. C'était un terrain vague super, là. Et il y avait le père Gergaud, qui était un type bizarre, qui avait une moto. Il avait une bru qui était très rondelette, qui avait des nichons, des choses comme ça, et ça nous attirait beaucoup. Mais lui aussi, je crois bien qu'il avait une histoire comme ça. Il avait des cassis dans son jardin. C'était un très joli jardin. On allait pour les cassis. Il y avait des choses un petit peu floues avec sa belle-fille. Enfin bon, là, ça, cet immeuble-là de deux étages. J'oublie. Là-haut, en tout cas, c'est la famille Roussa, monsieur et madame Roussa qui vivaient là. Madame Roussa, elle faisait des pyjamas. Et son mari était très gentil, il nous faisait repeindre son vélo. Et là, c'est là, je me rappelle pas, je devrais connaître qu'eux. J'ai oublié leur nom, Gilot. Il s'appelait Gilot, voilà. Parce que derrière, dans la cour, il y a un magnifique cerisier. Là, la dame qui est en train de. Qui nous a vus, qui se demande ce qu'on fait. C'était déjà un peu bizarre, cette maison. C'était la maison Mills. Monsieur Mills, tu vois, dans le garage que tu vois là, pendant des années, il a restauré une voiture. Il était garagiste.
La même.
Pendant des années, une traction. Et un jour, il a sorti la traction. C'était la traction de la traction. Et il est parti avec. Il a laissé sa femme et sa môme. Alors là, il y avait Monsieur Hulot. Ça, c'était un soleil, ce Monsieur Hulot. Et Madame Hulot, elle faisait de la couture. Elle était petite main. Ma mère, elle faisait de la confection, tandis que Madame Hulot, elle faisait de la confection, tu vois. C'est déjà plus luxe. Petite main, haute couture. Et lui, Hulot, il était installateur, il pététait. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Hulot? Je pétète. Il adorait dire ça. Il avait une fille charmante. Là, c'est vraiment trop intime, là. Je peux pas trop raconter, mais... Il y a encore des histoires qui ne sont pas réglées. On avait 7 ans, quoi. On avait 7 ans. Là, cette maison qui se présente à ta vue, c'est Ardel, le corps-au-pied. Mon père l'appelait le corps-au-pied.
Pourquoi?
Parce qu'il était manucure-pédicure. Ardel. Et ça, tu vois, là, tu as une vue imprenable sur le jardin où j'ai passé mon enfance. Alors, ce que tu vois plus, c'est le cerisier. Parce qu'il n'y en a plus. Il n'y a plus de cerisier. C'était l'attraction du jardin. Mais ça a été remplacé avantageusement par cette table que je vois là.
Et vous mangiez dans le jardin?
On mangeait dans le jardin, on sortait la table. On avait une grosse table là. Tu sais ce qu'on appelait du Henri III. On sortait la table Henri III par la fenêtre là. Et puis là-dessous, c'était la tonnelle. Mais là, tout s'est passé dans ce jardin. Tout s'est passé. Toute notre vie s'est passée dans ce jardin. Ça fait quoi? Ça fait 25 mètres. Avec ce mur de briques creuses, j'adore ce mur de briques creuses. Toujours, il fallait pas taper au ballon parce qu'on le faisait écrouler. Alors quand tu vois bien que c'est pas nous. On a la preuve maintenant que c'est pas nous. Là aussi, il fallait pas taper sur ce mur-là au ballon parce qu'on allait faire tomber la maison. D'après le propriétaire qui habitait derrière, monsieur Mirabel. D'après lui, qui avait sa petite tonnelle, sa femme qui s'appelait Jeanne, lui s'appelait Julien, elle Jeanne, et la sœur moustachue, Juliette, qui est morte derrière ce mur là-bas. On a passé notre vie, là. Toute notre vie. La communion, les mariages. Mais là, moi, je vois ma maison de l'extérieur. Mais évidemment que je la voyais de l'autre côté, d'accord? Et là, tu vois, regarde, si je me mets de côté maintenant, si je me mets comme j'étais quand j'étais le môme, tu vois, ce passage de rue, comme ça, c'est un travelling. Comment c'est un théâtre permanent, quoi. Et là, passait... Là, il y a un gars qui est... Il y a un monsieur qui est mort, là. Le gars qui vendait les tissus au marché. Il poussait sa petite carriole, il est mort devant chez nous.
Dans la rue?
Ouais. Mon père a pris un tissu qui était dans sa petite carriole. Il vendait des tissus.
Ouais.
Hein, le gars?
Il l'a enroulé dedans.
Voilà. Il était là sur ce trottoir. On voyait passer d'autres choses, on voyait passer des flics. Dont un des flics qui a dénoncé un de mes frères qui est parti en camp à cause de lui. On voyait...
Qui habite toujours là?
Je sais pas, il est peut-être mort quand même, j'espère. Il y avait le fils, le père Colson, le père à mon pote Colson, le ferrailleur. Il était toujours bourré, toujours sous. Il était vachement gentil, alors nous on le laissait passer parce qu'on jouait la balle au pristo, là, tu vois là. Là on jouait la balle au pristo. Il n'y avait pas de bagnole, aucune bagnole. Il n'y avait que des vélos de temps en temps. Une bagnole de temps en temps. Et non, alors, quand il y avait le père Colson. Ça, c'était bizarre, ce type qui titubait comme ça. Qui passait en titubant. Alors, le plus beau, c'était évidemment les enterrements. C'était des vrais enterrements avec cheval, corbillard, plus ou moins fleuri, le crottin. Ah, il fallait se précipiter sur le crottin. Tous les membres du quartier se précipitaient sur le crottin pour mettre dans les pots de fleurs, dans les jardins. Ça, ça se castagnait après. Mais bon, il fallait enlever ton béret et faire ton signe de croix. T'avais intérêt, sinon tu te prenais une paire de tartes, vite fait, même si ma mère voyait qu'on n'avait pas fait notre signe de croix. Et puis alors après, il y avait les gens qui pleuraient. Nous, on voyait ça à travers les lilas, là. Et c'était génial, parce que on voyait d'abord les veuves, elles étaient vachement éplorées, on voyait même pas leur tête tellement, c'était épais le voile. Et après, on voyait des yeux rougis et tout, c'était quand même quelque chose. Puis après, ils s'en foutaient de plus en plus, tu vois, au fur et à mesure. À la fin, c'était d'une gaieté. Le deuil se faisait sous nos yeux. Tu vois, en quelques minutes, le deuil était fait. En quelques minutes, la vie reprenait ses droits. Je me souviens du marchand de peau de lapin, le gars du peau de lapin.
Qui passait là?
Qui ramassait peau de lapin, il ramassait les peaux de lapin. Parce qu'on avait des lapins. Ce qui s'est passé, c'est que là derrière, dans ma maison, là, il y avait des lapins.
Des poules?
Des poules, bien sûr, on avait des poules, des lapins. Et le dimanche, tu vois, ça c'est la porte de la cave. Et là, mon père, le dimanche, hop, on se faisait un lapin. On avait un tuyau de plomb. On attachait le lapin par la patte à l'extérieur de la porte, hop, en haut. Et on attrapait le lapin et tac, un coup de tuyau de plomb sur la gueule. Et on arrachait l'œil du lapin pour faire un lapin au sang. Et ça tombait dans un bol, le sang du lapin pissait dans un bol. Moi, je tenais le bol. Mon frangin mettait un peu de vinaigre. On avait mis un petit peu de vinaigre et des échalotes et tout, hop, pour le sang. Puis après, on dépouillait le lapin. Mon père dépouillait le lapin. Et la peau du lapin, on mettait de la paille dans la peau du lapin. Alors, ou bien on fouillait la peau du lapin à lapin peau, ou bien ma mère nous faisait des moufles. Ou bien des semelles pour mettre dans nos godasses qu'on nous donnait à l'école parce qu'on était des économiquement faibles. Donc on nous donnait des pompes à l'école. Ou bien elle nous faisait des moufles en peau de lapin. Qui avaient cette particularité, c'était de perdre leurs poils. Mais comme c'était à l'intérieur, tu vois, il fallait remettre les poils. Dans les peaux de lapin. Et voilà avec quoi je partais à l'école, donc quand il faisait froid, un peu comme aujourd'hui. Et puis voilà, c'est tout. C'était assez heureux, finalement, la vie. C'était pas mal, quoi. Je me souviens quand on... Des fois, je parlais de Monsieur Hulot tout à l'heure. J'espère qu'il existe toujours. Et qu'il nous emmenait à l'école, celui qui pététait. Il était merveilleux, ce bonhomme. Il avait un triporteur des pététés. Pour aller mettre ses machins téléphoniques. Et des fois, il mettait toute la nichée de mômes dans son... Tu vois, dans le triporteur devant, comme ça. Et il nous emmenait, il était avec Liliane, sa fille, mon frangin, moi. Mais alors c'était sympa parce qu'on était, tu vois, secoués. Alors il fallait tenir le couvercle, comme ça. Et alors c'était vachement gai, quoi, il nous larguait là, il était pété la vie, ce bonhomme. Il adorait sa femme, je me souviens comment il plotait sa femme, c'était un bonheur, Madame Hulot. Des fois, moi, le samedi, c'était mon frangin qui m'emmenait mon grand frère, Guy, qui nous emmenait en moto à l'école. Alors là, s'il avait une moto bécane, il a eu une terreau, il aimait les motos. Alors le truc, c'est que le samedi, ils étaient à déjeuner, tu vois, les parents. Alors ils étaient bien installés à table, en train de bien bouffer, bien picoler et tout, puis il fallait nous emmener à l'école. Alors ça l'emmerdait, mais il le faisait quand même, des fois. Alors nous, on insistait, parce qu'on voulait arriver à l'école sur le temps de sable de la moto, c'était quand même une bonne journée. C'était quand même une bonne journée. J'adorais ça. J'ai encore le bruit de sa moto. Lui, il avait carrément la, il avait encore la serviette de table autour du cou. T'es fait un peu les voisins, là. Alors ça, c'est des voisins bien-aimés qui habitaient là. C'est monsieur et madame Ventura qui habitaient là longtemps dans la baraque en bois, la baraque des Espagnols. Et le père Ventura, c'était un héros de la guerre d'Espagne. Il faisait du carrelage, évidemment, comme tous les espingouins du coin. Il y avait d'autres espingouins qui étaient là pour la même raison. Et sa femme était une merveille. C'était une merveille. Elle foutait absolument rien. Elle était là, tu vois, sous ce pomme. Ah non, il n'y a plus de... Attends, c'est encore un pommier. Oui, oui, c'est un poirier, ça. Et bien, elle était là sous le poirier, dans sa chaise longue, avec sa fille qui s'appelait Dolores, j'invente rien. Et ces deux femmes se marraient. Elles étaient aussi grosses l'une que l'autre. C'est des gens heureux qui se bidonnaient. Elles étaient là, sous le clavier, elles se bidonnaient. Voilà, avec le père Ventura qui rentre en vélo, le maçon. Et là, il y a un gars, tu vois, au 16, là, de cette rue. Je fais gaffe à pas trop dire où c'est, papa. Il y avait un gars qui était un collabo. Là, qui était un collabo. Là, il était alcoolo. Et il est mort une nuit s'il avait confondu le vin blanc et le javel sous l'évier. Personne n'a voulu venir le ramasser. C'est mon père qui est venu le... Et là, sur cette maison-là, pendant des années de mon enfant, tu vois, je passais là pour aller à l'école, voilà. Et là, sur ces murs-là, il n'y avait pas le petit grillage, il y avait des croix gammées. C'était une maison de collabo. Pendant des années... Jusqu'à peut-être, je sais pas, jusqu'en 55, au moins, il y a eu ces croix gammées, qui étaient à chaque fois que le gars effaçait sa croix gammée, quelqu'un venait la remettre. Là, il y avait les bouteilles de lait. Et le matin, mon père, son bonheur, c'était de se lever le premier. Il adorait se lever tôt, c'est un homme qui aimait, tu sais, le avant que ça commence. Et il allait chercher sa bouteille de lait. Voilà. Et puis, il en mettait une vide. C'est des petites choses. Des petites choses des gens de peu. Voilà, là, on part vraiment pour l'école. Il y avait un peintre en bâtiment.
Là, dans celle-là.
Et un italien. Et c'était très joli. C'était toujours très... Il repeignait toujours sa maison. Là, il en est resté quelque chose. Bien peindre. Oui, les briques comme ça. C'était un italien. Mais c'était un vrai peintre, hein. Tu vois, le genre qui fait du faux bois, du faux marbre et tout, qui s'y connaît, quoi. Il avait une grosse femme. Voilà.
Et ce monsieur-là.
Eh ben oui, je crois qu'ils s'appelaient Rousseau, ces gens-là, mais je sais pas s'ils s'appellent. Oui, il y a un monsieur qui est en train de... Oui, c'était un facteur qui habitait ici. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Est-ce que vous vous appelez monsieur Rousseau?
Ah non.
Non. Vous savez qu'il y a un monsieur Rousseau qui habitait là, autrefois?
Oui, pourquoi?
Non, comme ça, parce que je l'ai connu. Oui. Vous savez ce qu'ils sont devenus? Voilà, bah c'était des copains à moi quand j'étais gosse. Alors ça, j'avais un copain qui s'appelait... Oh, ça me revient, il s'appelait Coé. Coé, là, dans cette maison-là. Parce que les gens, ils avaient des jardins. Le terrain, on allait au terrain, on allait au jardin. Alors, ils avaient un petit vélo. Et puis derrière, il y avait un petit... une petite remorque à deux roues ou à une roue. Et on emmenait les outils, la bêche, le râteau, le plantoir et tout... L'arrosoir. Puis on emmenait même de l'eau. Et puis on allait au jardin, on allait s'éclater au jardin. Les hommes faisaient les légumes.
Et les femmes les fleurs.
Voilà. Alors ça, c'est ça, on commence à être déjà loin. Là, c'est la rue Jean-Baptiste Clément, auteur du temps des cerises. Ça va être marqué quelque part. Et ça, ce petit bout de terrain, absolument cette maison, absolument désolante, de laideur. C'était quand j'étais môme, un terrain magnifique. C'était une petite forêt vierge qui était là. On passait là, tu vois. Là, on pouvait couper, tu vois, la pointe de cette rue. On pouvait l'éviter, on pouvait éviter de faire le détour. Et on passait là. Mais c'était formidable. Il y avait des grillages. Il faut laisser passer, là. C'est l'installation frigorifique Air Froid qui passait. Quand même pas n'importe quoi. Il faut laisser la place. C'était une urgence. Et donc, là, on passait, tu vois, on passait...
On traversait.
On traversait. Alors des fois, on se paumait un petit peu, on allait faire quelques bagarres, quelques castagnes, quelques supposées cochonneries avec des filles. Il y en avait quand même, mais on se marrait quand même. Les filles n'étaient pas... Et puis, au fond de ce truc, habitait un poète qui s'appelait Primaire.
Au fond de là, de ce terrain-là.
Voilà. Là-bas au coin, sous les branches, il y avait une méchante cagna où habitait un bonhomme qui vendait des cravates et des pyjamas sur les marchés dans un parapluie. Il s'appelait Primaire. Il avait une balle dans le poumon, Primaire, qu'il avait ramassé dans je ne sais quelle guerre. Si bien que... Il sifflait comme ça et il récitait des poésies qu'il écrivait lui-même à la main.
C'était des jolis.
Ouais, il nous adorait. Oui, tu parles. Et il m'a donné le goût de la poésie, Primaire. Et alors, il... Mais là, bon, si tu veux, de la poésie, mais peut-être pas des poètes, parce qu'il avait donc ce bruit de poumon qui sifflait. Et puis, à cause de ça, sans doute, le pauvre bonhomme, il bavait un petit peu. Enfin, il avait un petit peu de... Tu vois, enfin, bon, c'était pas un spectacle bien. Et ça l'empêchait pas, pourtant, d'avoir une très jolie fille. C'est pour ça que la défense, toi... Mais ça, quand on allait à l'école, on allait à l'école. Faut quand même pas... Mais des fois, il n'y avait pas que l'école. Et donc, il y avait la cagnotte de Primaire qui était toujours prêt à nous sauter dessus pour nous réciter des poésies qu'il récitait, par ailleurs, à Montmartre, je crois. Il disait ça. Et je ne sais pas ce qu'il est devenu. Ben, il était bien vieux. Ce qui était très frappant, c'est que c'était cette balle qu'il avait dans le poumon. Là, il y avait une ferme, tu vois, au coin de la rue. Là, je fais vraiment... C'est vrai.
Une vraie ferme.
Une vraie ferme, oui. Tu vois ? La maison avec des volets de tôle bleue pâle, là. Ouais. C'était une ferme. On allait chercher le lait. On voit bien la forme de la cour de la ferme. Tu vois ?
Là.
Voilà, ça, c'est une ferme. Et il y a un gars qui est en train de réparer sa sono. C'est la banlieue d'aujourd'hui. C'est tout droit, on continue. On peut pas se tromper. Ouais.
Si vous avez eu une enfance et si vous avez eu une école, ben vous pouvez... probablement faire la même chose. Un jour, vous faites comme moi, vous partez de la maison de votre enfance, si elle existe toujours, et puis vous faites le chemin, puis peut-être que vous arriverez à votre école, si elle existe toujours. Voilà le chemin que j'ai eu envie de faire avec Zoé, varié. Mais je ne sais pas si l'école existe. Vraiment pas.
Là, c'était chez Desmarais. C'était mon pote Desmarais. Il était blond. Desmarais, il était bizarrement blond. Très, très, très blond. Une très jolie maman.
Pourquoi bizarrement blond ?
Trop blond, tu sais. Blond, presque blanc. Bon. Mais c'était un bon copain. Il avait un vélo. C'était un fou de vélo, Desmarais. On était tous des fous de vélo. Hein. Le vélo, la boxe et l'accordéon. T'as vu, je t'ai pas menti, c'est bien allé, Jean-Baptiste Clément. Ah, c'est loin, l'école. Hein. Tu vas voir, c'est vachement loin. Hein. Donc là, voilà, on a fait le tour de chez Primaire. Et là, il y avait un gars qui vulcanisait les pneus. C'est-à-dire que là, dans ce garage que tu vois là, où il y a une pub coincée dans la boîte à lettres, il y avait un petit bonhomme là sur le trottoir. Où... Ça sentait bon d'ailleurs. Il ne faudrait pas que j'oublie les odeurs. Ça sentait le pneu. Et ce gars, il avait des pneus toute taille sur ce trottoir. Et avec un méchant appareillage, il faisait des dessins dans les pneus. Tu vois, c'était son boulot.
Quand les pneus étaient lisses.
Ouais, et ben lui a creusé dedans. Tu vois, c'était son boulot. Il avait un méchant. Il avait un chien très méchant qui m'avait attaqué une fois. Je me souviens, j'avais toujours très peur. Là, c'était des pavés. Tu vois, on a mis du bitume sur les pavés pour rendre plus agréable le confort des automobilistes. Mais sur les trottoirs, c'était du mâche-fer, en fait. Et alors, c'était une drôle de combine, parce que c'était des ordures brûlées. On brûlait des ordures, puis on les mettait sur les trottoirs. Et alors nous, on marchait là-dedans. En espérant que ça allait se tasser. Et alors, le long de cette allée, cette rue-là, ça nous conduit tout droit. J'ai pas voulu te le dire tout de suite, pour te garder la surprise, au marché de la Basoche. Le marché de la Basoche. Le marché de la Basoche, et quand j'étais môme, tu vois, il y avait le grenetier, le comte, par exemple, qui passait avec son cheval blanc et sa charrette et qui allait au marché. Et moi, je connaissais le grenetier, la grenetière, Madame le comte, et je montais dans la carriole des fois. Ça, j'étais tout môme, mais c'est vrai. Je montais dans la carriole. Et elle était aidée au marché par Madame Garniche, qui est un personnage étonnant. C'est la femme que j'ai... qui puait le plus au monde que j'ai pu rencontrer de ma vie. Elle aidait le grenetier au marché. Et c'était un des personnages... J'adorais cette bonne femme. Elle vivait dans un tas d'ordures, là-bas vers la route nationale. Et elle était cernée de caisses en bois de poissons, tu vois. Des vieilles caisses en bois qui avaient contenu du poisson.
C'était sa maison?
Ouais. Elle habitait. Alors ma mère qui a toujours pris les chiens garés comme ça en protection, recevait chez nous Madame Garniche, qui venait se chauffer au coin du poêle.
Et tu te rappelles de son odeur?
Ah oui, bah oui. Ouais, c'était une puanteur. Alors là, bon. Là, c'est le... Là, on est au marché de la Basoche. Alors, c'était le terrain de mon père. Mon père, il arrivait... samedi, c'était casquette. Que lundi, c'était... Toute la semaine, c'était béret. Mais samedi, c'était casquette. Et là, il venait au Mercado avec son sac à provisions roulé sous le bras quand il arrivait.
Ouais.
Et c'était son terrain. Enfin, le marché, c'était son terrain. Là, il connaissait tout le monde... Il fallait pas l'arnaquer, il obtenait des... Il adorait, c'était gai comme tout, c'était le bonheur, le marché. Alors là, bon, là on rejoint des trucs très terribles, c'est l'école des filles de la rue Robillard. Là, il y avait le sexe féminin qui braillait derrière ces grilles. Tu vois, c'était étonnant, parce que dès que j'arrivais par là, j'entendais les filles brailler. Il y en avait... qui me regardait et que je regardais, quoi.
Est-ce que toi, des fois, tu passais devant l'école et puis tu traînais un peu pour en voir une sortir?
Je traînais pas du tout, je marchais le plus vite possible tellement j'étais effrayé. Mais il y avait des fois des regards qui s'accrochaient. Et puis le lendemain, on se revoyait, quoi. Et puis ça pouvait comme ça durer pendant des semaines où on se regardait tous les jours. Mais quand même pas mal, cette école de filles.
Ouais, elle
a quand même... on dirait vraiment un dessin de Tardi, quoi, hein. Le meilleur pour peindre ça, c'est Tardi. Attends, on est en train de se tromper de trottoir. Je suis en train de prendre le trottoir des filles, dis donc. Tu vois, c'est... Tu me fais... Ça, c'est le trottoir des filles. Ah là, c'est le trottoir des garçons. Il était plus large que ça, d'ailleurs. Ou j'étais plus petit. C'est peut-être ça. Là, c'est une infirmière. Elle avait une petite boutique où tu trouvais tout. Les cahiers, les plumes sergent-major, les règles, les crayons, les bonbons, les buvards. Et là, alors, c'est une maison, je sais pas ce que les gens faisaient, ça devait être des négociants en vin ou en charbon, mais je me souviens qu'il y avait... Cette maison-là, ça nous fascinait toujours, parce qu'il y avait toujours de très belles voitures. Et je me souviens d'une... Le gars, il avait une vedette, une Ford, avec une calandre en forme d'aile d'avion. Alors ça nous... Ça nous étonnait. Ah oui, mais c'est marrant comme les... Tu te rends compte, 40 ans après, il y a encore ces... Là, c'était un endroit comme ça. Un peu boisé. Ah, regarde la petite maison là-bas, dans le fond. C'est vachement mignon. Hein. C'est marrant. C'est le printemps qui vient dans la banlieue, hein. C'est marrant.
Il y a une dame qui nous double, si ça se trouve. Elle passait sur le trottoir quand j'étais môme.
Mais dis-moi, je m'aperçois que c'était drôlement long le chemin de mon école. Hein.
Ben ouais, pourquoi pas nous? Pourquoi est-ce qu'une fois comme ça, de temps en temps, on se prendrait pas pour des personnages importants et qu'on ferait pas ce que j'essaye de faire là, c'est-à-dire le chemin de l'école? 40 ans plus tard, je l'ai dit, je suis trahi. Tout le monde peut le faire, vous pouvez le faire. Presque tout le monde, je pense, peut le faire. On continue, ça vous amuse? Moi, ça m'amuse beaucoup, ça me remue, je vous dis pas tout. Hein. Je vous dis certainement pas tout. Et je sais toujours pas s'il existe, toujours, cette école.
Voilà l'école. Quand même, c'est beau. Hein. Ah ouais. Alors là, par ici, dans une de ces maisons, peut-être bien celle-ci, habitaient monsieur et madame Rognard, qui était le directeur et la directrice de mon école. Et c'est madame Rognard, la sainte madame Rognard, qui m'a appris à écrire. Voilà mon école. Ville des pavillons sous bois, groupe Anatole France, école des garçons. Non, je vois qu'ils sont en travaux. On va essayer par l'autre porte. La ville. Mais elle marche toujours cette école, on a l'impression que c'est une école morte. Construction et réhabilitation du groupe scolaire Fischer et Pierre Brossolette. Montant des travaux 28 millions de francs. Ça veut dire que mon école est en travaux? Bonjour madame, c'est pour la radio. Et là, je suis en train de faire un reportage parce que j'étais dans cette école quand j'étais enfant.
Oui, vous tombez mal, il n'y a personne.
Il n'y a personne? Elle est fermée l'école?
Disons qu'ils sont en travaux.
Oui.
Et ils sont en train de ragrandir l'école.
Ouais.
Et qu'aujourd'hui, il n'y a personne.
Ouais. C'est pas possible d'aller faire un tout petit tour? Ça vous gêne pas si je vais faire un tour dans l'école?
Non, mais vous ne verrez pas grand-chose. Hein.
Oui, mais ça m'intéresse d'aller voir un petit peu.
Ah bah alors, allez-y.
Ça fait 40 ans.
Vous n'emmenez rien.
Bon, on va faire un tour. Merci.
Faites un tour. Il y a un couloir.
Oui, mais je me souviendrai des lieux. Alors, on entre à l'école, je rentre à l'école. Ah, voilà. C'est plus là. Parce que c'est en travaux, on est en train d'agrandir. Le même carrelage. C'est le même carrelage. Oh. Je vais te faire voir le bureau du directeur de monsieur Rognard, c'est là. Alors là, je te raconte pas. Là, c'était la terreur. Et là, il y a une. Et là, c'était la cutie. Ah ouais, c'est l'infirmerie. Et c'est toujours, hein, c'est toujours un médicament. Ça ne se prend pas à la légère. La chasse aux poux est ouverte. Dormir, c'est vivre aussi. Des conseils bien sentis. Là, on entre dans le préau.
Qui n'a pas changé.
Qui n'a absolument pas changé, avec les machins pour faire la gym, les barres parallèles, le truc là où on se faisait torturer pour faire la gymnastique corrective, parce qu'on on avait tous des scolioses. Là-bas, c'est... ben voilà, c'est là qu'avait lieu la chorale. Là, c'était la cantine. Là, il y avait la classe des attardés.
Là, la porte.
Ouais, la porte, ça c'était la classe des attardés. C'était monsieur Bruguier ou Broudier, j'ai jamais réussi à savoir, qui s'occupait des attardés. Le plus frappant, c'est ce carrelage, cette frise, des carrelages vert et blanc. Mais je sais qu'on entrait en classe par ici, par ces couloirs qu'on va prendre. C'est impressionnant, c'est impressionnant.
C'est là que j'ai appris à écrire. En fait, la première fois que je suis venu dans cette école, j'avais 6 ans. Amis, comme mes mignons manger. Pourquoi Pipon, petit, appelle copain? Chat, chien, chuchote, brioche. Rue, talus, salut, crochu, barbu. Sors, comme, encore, et fort, robe. Mon ami, mes amis, la pomme, les pommes. Voilà. Les plantes vertes, les petites tables, les dessins. Ah, la pendule, c'est la même pendule. C'est vrai que les mots m'ont toujours les yeux fixés sur la pendule. Ça, c'était la classe de Madame Rognard. L'escalier, la cour de récré, le couloir vers la cour de récré. L'escalier de l'étage, là, c'était les grands. Ça, c'est des tables, oui. Nous, on avait des tables, alors là, bien plus antiques que ça. C'était déjà des tubes et des bois. Nous, c'était des tables en bois qu'on nettoyait. Il y avait la journée où on nettoyait sa table. Il fallait amener du papier de verre et de la cire et aussi des morceaux de verre. Des morceaux de verre cassés de vitre pour gratter la table. Et une fois par mois, ça faisait une poussière de tous les diables. Le maître, Monsieur Chaudron, Monsieur Billonnet, Monsieur Dumas, Madame Quiriot, Monsieur Ferdinand, et j'en oublie, eux-mêmes se mettaient en bras de chemise et se nettoyaient leur bureau. Et là, il y avait les petits encriers en faïence. Il y avait la dame de service qui, de temps en temps, passait avec sa bouteille, ostensiblement, et son petit chiffon qui remplissait les encriers d'encre. Noir pour ce qui nous concerne et... Et il y avait aussi la rouge pour... On sait quoi le rouge. L'essentiel, c'est le tablier gris ou tablier noir. J'ai porté le tablier noir qui s'attachait un peu sur le côté à la russe, comme ça, avec un liseré bleu ou rouge, tout petit, et la croix. On avait la croix. Si on était bien travaillé, on avait la croix. Et on avait la boîte à bon point, le sac de billes, le petit sac avec le goûter de 10 heures, le goûter de 4 heures. Pour ceux qui restaient à l'étude. Alors bon, c'était un morceau de pain avec un morceau de chocolat dedans. Pain et chocolat. Un petit peu fondu. C'était bien quand on pouvait passer ça sur la cuisinière, parce qu'il y a une cuisinière à charbon. On passait ça un petit peu au four de la cuisinière. C'était un peu mou là-dedans, c'était génial. C'était le panard. Mais je me souviens de cette classe, c'est dans celle-ci qu'il y avait les distributions. C'était après la guerre. Et il y avait beaucoup de pauvreté. Les Trente Glorieuses, ça a commencé plus tard à produire des effets. Et donc, la caisse des écoles, ou peut-être la mairie, se chargeait de distribuer des colis aux mômes défavorisés, dont j'étais. Et ça, c'est vraiment des humiliations terribles dans la vie quand on le distribue. Je crois que c'est porté d'un bon, je sais pas quoi, j'ai plus d'avis là-dessus. Mais la distribution des godasses, c'était particulièrement dur. J'ai gardé des trucs. Enfin bon. Faisait ce qu'il pouvait, hein, je pense. J'espère. Là, on est... C'est bien, hein, les instituts. Le Rhône des Fers vers la Camargue. On s'intéresse à ce qui se passe. Sortie interdite. C'est en travaux. C'est ça qu'il faut comprendre. On n'a pas le droit, mais... Ouais. Bon, c'est vraiment interdit. Je vois des câbles qui sont à l'extérieur. On va aller dans la cour de récré. Voilà la cour de récré. Voilà la cloche. Là-bas, il y avait les cabinets. C'était un haut lieu, évidemment, de tout ce qu'on peut imaginer. D'abord, pour se mettre à l'abri quand il flottait, mais il y avait le préau aussi. C'est là que tout se passait, tout s'apprenait, tout se disait, tout s'échangeait. Ça correspond au marché pour les parents du chiotte de l'école. C'est-à-dire que les garçons, il y avait la cour des grands et la cour des petits. Entre les deux, l'instit qui allait et venait, sans sifflet à la main, sans béret sur la tête, son manteau en hiver. Bon, je peux dire de quoi je peux parler, des billes, quand on joue aux billes, qui étaient des grands moments, les batailles à cheval, enfin tous les gosses connaissent tout ça. Sauf peut-être que beaucoup ont oublié que, comme c'était après la guerre, au lieu de jouer aux gendarmes et aux voleurs, on jouait aux FFI et aux nazis. Alors c'était au hasard, on tombait dans nazis ou FFI. Et encore une fois, les mômes avaient tout inventé, quoi, parce que c'est comme ça que ça se passe dans la vie. Il se trouve qu'on est FFI, il se trouve qu'on est nazi. Et on sait pas très bien pourquoi, on n'a toujours pas très bien compris pourquoi on se trouvait du bon ou du mauvais côté. Et voilà, les platanes sont absolument d'époque, j'en suis sûr. Si on pouvait s'approcher des platanes, on verrait des trucs gravés, les mômes. Les instits se battaient toujours pour que les mômes ne creusent pas, ne gravent pas le bois des arbres. Le sifflet, alors le sifflet, coup de sifflet du maître, tout le monde en rang, on s'aligne, on tend le bras comme ça, il faut tendre le bras comme ça, garde à vous, on ne moufte pas dans les rangs, on a sa place dans les rangs, les petits devant, les grands derrière, et on rentre dans l'école, en rang, classe par classe, et on s'arrête au coin du couloir. On tourne, etc. C'est un peu militaire. On rentre pas comme ça en paquet, débraillé. Il faut être habillé beau. Enfin, il faut être propre. Sinon, il y a des remontrances. Sinon, il y a des mots qu'on envoie aux parents. Les riches avaient des tabliers chics. Et nous, on avait des tabliers que me fabriquait ma mère. Et ça, c'était pire que tout, parce que c'était pas, on voulait des vrais tabliers comme les autres. Alors, pauvre mère, ça faisait de cuisine au tablier, mais c'était pas, nous, on n'était pas contents parce que c'était pas livré. C'était pas livré comme les autres. Mais enfin, il y avait plus pauvres que nous. De toute façon, on trouve toujours. Si vous avez besoin de trouver plus pauvres que vous, on a ce qu'il faut.
C'était Le chemin de l'école, un reportage de Daniel Mermet et de Zoé Varier, une émission du 6 décembre 2005. Retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émissions, là-bas si j'y suis, sur le site la-ba.org, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. La technique aujourd'hui, Aveline Carmois, Michel Thomas et Eric Morin. Réalisation, Chloé Sanchez et Dimitri Gronoff. Assistant, Pierre-Yves Bulteau. Répondeur, Solène Cordier. Le numéro du répondeur de là-bas, si j'y suis, 01 56 40 37 37.
Partenaire du festival Jazz à la Villette sera en direct de la Grande Halle le dimanche 9 septembre à 19h. Suivez les concerts exceptionnels du Archichef Attica Blues Big Band et de l'Hypnotique Brass Ensemble. Deux lives à retrouver en direct sur FIP et en vidéo sur fipradio.fr. FIP, une radio de Radio France.
Avec France Bleu, soyez le témoin privilégié de la vie près de chez vous.
Postez et retrouvez chaque jour les photos, vidéos des événements de votre ville et de votre région sur votrevudici.fr.
Votre Vue d'ici, le site pour partager la vision de votre ville au quotidien.
Inscrivez-vous dès maintenant sur francebleu.fr, rubrique Votre Vue d'ici. France Bleu, une radio du groupe Radio France.
Et dans un instant sur France Inter, vous avez rendez-vous avec Frédéric Lodéon pour Carrefour de l'Odéon. Bon après-midi, vous écoutez France Inter, il est 16h. Les informations, Laetitia Gaillet.
Trois des quatre personnes tuées dans la fusillade hier en Haute-Savoie ont reçu une balle dans la tête. Le parquet a confirmé cet après-midi que le propriétaire de la voiture, lui, était d'origine irakienne. Mais il refuse de confirmer pour l'instant qu'il s'agit là de la personne tuée. Par ailleurs, deux passeports ont été retrouvés à l'intérieur du véhicule, un irakien et un suédois. Selon Stockholm, cet après-midi, la plus âgée des victimes est bien suédoise. Quant aux fillettes, la plus âgée est actuellement plongée dans un coma artificiel. Elle doit être réopérée, mais ses jours ne sont pas en danger. La plus jeune, âgée de 4 ans, a commencé à parler aux enquêteurs. Elle a juste pour l'instant évoqué des cris. Jean-Louis Quérou, l'ancien jardinier et amant de Patricia Wilson, reste en prison. Décision prise cet après-midi par la cour d'appel de Montpellier. Cette Anglaise a disparu dans l'Aveyron depuis la fin août. Les marchés ont globalement bien réagi au discours de Mario Draghi cet après-midi. De Paris à Madrid, en passant par Francfort et New York, ils sont tous orientés à la hausse. Pour apaiser les tensions justement sur les marchés et aider la zone euro, le président de la BCE a annoncé un nouveau programme de rachat de dettes publiques des pays en difficulté. Il n'y aura pas, dit-il, de limite quantitative, mais ces rachats se feront sous strictes conditions de demande d'aide au Fonds européen de stabilité financière. De son côté, Mariano Rajoy a assuré ne pas avoir demandé l'aide financière de Bruxelles. Le chef du gouvernement espagnol dit avoir le soutien d'Angela Merkel pour son programme de réformes structurelles. Sans doute un effet de la crise en France, le surendettement repart à la hausse. Selon les chiffres publiés par la Banque de France aujourd'hui, le nombre de dossiers déposés auprès des commissions était en progression de 6,5% en juillet par rapport à la même période l'an dernier. Ce rebond intervient après un mois de juin plutôt stable. L'avocat de la cour d'appel de Douai a requis cet après-midi la condamnation du maire de Coussolres dans le Nord, mais il demande qu'il soit dispensé de peine. Maurice Boissard est poursuivi pour avoir giflé un adolescent de son village qui escaladait le grillage d'un terrain communal pour y récupérer un ballon. Les faits remontent à 2010. En première instance, le maire de Coussolres avait été condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis et 250 euros de dommages et intérêts. Le cadeau de Renault au pape, le constructeur automobile français, a offert aujourd'hui deux voitures 100% électriques à Benoît XVI. Ces papamobiles, l'une blanche et l'autre bleue, serviront au déplacement du souverain pontife et de la gendarmerie vaticane. Johnny, à nouveau hospitalisé, mais à Los Angeles cette fois, et a priori c'était prévu. Le chanteur français doit y subir des examens, selon son manager, et il devrait sortir demain. Johnny, qui a annoncé par ailleurs sur Twitter son retour en studio lundi pour enregistrer une chanson avec Céline Dion. Fin août, le chanteur avait été hospitalisé aux Antilles pour des problèmes respiratoires. Enfin, aux Jeux paralympiques de Londres, l'haltérophile brésilien Bruno Pinheiro Cara a été suspendu pour 9 mois. Décision prise aujourd'hui par le Comité international olympique. L'haltérophile brésilien était contrôlé positif à la veille du début des Jeux paralympiques de Londres. Vous écoutez France Inter, 16h et bientôt 3 minutes.
Bonjour à tous, c'est Frédéric Lopez. Je vous propose désormais une nouvelle émission chaque jour sur France Inter. Non seulement c'est à la radio de 11h à 12h30, mais c'est aussi un spectacle libre et gratuit. Il serait dommage de manquer.
On va tous y passer.
Daniel Morin, demain nous recevrons qui ?
Alors demain nous recevrons Franck Dubosc et Roger Paul III, le philosophe gros déconneur.
Allez, je vous attends tous les jours au studio 106 de la Maison de la Radio.
On va tous y passer.
Eh bien, Arjane, demain nous avons une séance supplémentaire à partir de 15h, c'est ça ?
Tout à fait, à partir de 15h, ils seront en compagnie de Catherine Fro.
On va tous y passer.
Merci à vous en tout cas. Venez nombreux, à demain.
Bonjour Frédéric Lodéon, c'est à vous
oui,
maintenant.
Merci beaucoup Laetitia.
Carrefour de l'Odéon, avec le Festival d'Île-de-France. 29 concerts en septembre et octobre, dans 26 lieux du patrimoine francilien.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. La nature a souvent inspiré les artistes, et puis les artistes s'inspirent les uns des autres. Par exemple, la 17e sonate dite La Tempête de Beethoven porte ce titre-là volontairement, c'est-à-dire que c'est Beethoven qui l'a accepté en tout cas, parce que souvent ça lui a été imposé sans qu'on lui demande son avis. Les titres plus ou moins fantaisistes qui jonchent ou qui jalonnent son œuvre, et cette tempête-là, elle aurait été inspirée de celle de Shakespeare. D'ailleurs, Beethoven répondait de manière un peu brusque, comme souvent, quand on lui demandait la signification de cette œuvre, lisez La Tempête de Shakespeare. Voilà, nous on va écouter la lecture tout à fait sensible, pleine de vitalité aussi, du pianiste Javier Perianès. Il offre ce disque Beethoven sous-titré Moto Perpetuo, parce qu'il y a des mouvements qui s'enchaînent sans arrêt, ou presque, signe d'une force qu'on a du mal à réprimer. C'est un très bel enregistrement publié chez Harmonia Mundi. Le final allegretto de la 17e sonate de Ludwig von Beethoven, dite La Tempête, interprétée par Javier Perianès. Anton Rubinstein était lui aussi virtuose et compositeur. Quand on pense à Rubinstein, on pense au piano, on pense à Arthur Rubinstein, qui a été un des grands maîtres du XXe siècle. Mais il y avait avant lui, puisque Anton Rubinstein est né en 1829, d'autres Anton et puis son frère Nikolai, ami de Tchaïkovski. Donc ces grands virtuoses-là, ils avaient une réputation certainement encore plus grande que celle de Beethoven en son temps. Et Anton notamment, qui a fait le tour du monde, qui voyageait, qui a été un enfant prodige. Sa mère donnait des cours de piano d'ailleurs, et on a un peu oublié son œuvre symphonique. On a oublié qu'il a écrit un opéra, Le Démon, et puis des œuvres pour orchestre. Petite injustice à réparer, voici un extrait du troisième mouvement, Allegro, de la deuxième symphonie d'Anton Rubinstein.